France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En juillet 1936, partis d'une vingtaine de pays dans le monde, 6000 athlètes gagnaient la Catalogne pour participer aux Olympiades populaires de Barcelone, qui devaient être la réponse antifasciste aux Jeux olympiques qui allaient se tenir au mois d'août à Berlin. Mais le 19 juillet au matin, le jour même où auraient dû débuter les épreuves, l'attaque sur Barcelone des troupes de Franco tuait dans l'œuf ce qui s'annonçait comme la grande fête de la jeunesse sportive internationaliste qui disait non à Hitler. En l'an 2000, Jeannette Padziarkowski proposait aux auditeurs de la Fabrique de l'Histoire un documentaire qui rappelait dans quel contexte politique et idéologique était né le projet de ces Olympiades alternatives à travers les témoignages de certains de ceux qui, en juillet 1936, étaient à Barcelone pour y prendre part. Et parmi eux, les témoignages de sportifs qui choisirent alors de rester en Espagne et de se ranger, les armes à la main, aux côtés des antifranquistes. 1936, les Olympiades populaires de Barcelone ou les Contre-Jeux de Berlin, un documentaire diffusé le 25 septembre 2000 sur France Culture dans La Fabrique de l'Histoire.
Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet die 11. Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion.
Avec un intérêt de tous les instants que se suit la préparation des Jeux de la 11e Olympiade. Elle s'accomplit sur un plan magnifique, avec une parfaite conception des ensembles et un souci non moins parfait du détail.
1936, les Olympiades populaires de Barcelone.
1er août 1936, mobilisation pour le sport et la paix. À Berlin, les Jeux Olympiques commencent. L'entrée du Führer chancelier et du corps diplomatique.
Barcelone ou les contre-jeux de Berlin.
La France.
On avait fait une répétition quelques jours avant. Et moi j'avais honte parce que la délégation française ne marchait pas au pas, c'était affreux. Et quand nous sommes arrivés sur le stade, au contraire, ça a été impeccable, tout le monde marchait bien au pas. Et il y a eu l'événement du salut olympique. Parce que le salut olympique, on mettait la main sur le cœur et on tendait la main sur le côté. Et les Allemands ont cru qu'on faisait le salut hitlérien. Alors on a eu une ovation extraordinaire. En principe, toutes les délégations, tous les pays devaient le faire, mais toutes ne l'ont pas fait.
Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux Olympiques.
J'ai l'impression que toute l'Allemagne, depuis son chef jusqu'au plus humble de ses écoliers, souhaite ardemment que la célébration de 1936 soit l'une des plus belles que le monde ait vues. Dès aujourd'hui, je veux remercier le gouvernement et le peuple allemand pour l'effort dépensé en l'honneur de la 11e Olympiade.
La ville de Barcelone a présenté deux fois sa candidature à l'organisation des Jeux Olympiques. Le Comité international olympique a préféré Amsterdam pour les Jeux de 1928 et pour les Jeux de 1936. C'est Berlin qui a été désigné en mai 1931 par 63 voix contre 16 en faveur de Barcelone. Le CIO avait sans doute peur de la jeune République espagnole et estimé que la sécurité et l'ordre seraient mieux assurés en Allemagne. Dès avril 1933, un mouvement de boycott a pris naissance aux États-Unis en raison des discriminations prises par les autorités allemandes à l'encontre des sportifs juifs. Le 5 mai 1936, Barcelone invite les sportifs du monde à une confrontation pacifique sous le signe de l'antiracisme. L'idée des Olympiades populaires était lancée. Les Jeux olympiques se déroulent à Berlin du 1er au 15 août, malgré les lois de Nuremberg, malgré la remilitarisation de la Ruhr. Mis à part les nageuses autrichiennes Judith Deutsch et Ruth Langer, l'épéiste français Albert Wolff, peu de sportifs refusèrent la sélection pour Berlin.
La mairie. L'Allemagne.
Mais il y avait des centaines de pigeons qui ont été lâchés au moment de l'ouverture, la cérémonie d'ouverture, pour faire quelque chose de grandiose. Effectivement, c'était grandiose. Ces pigeons se sont mis à tourner au-dessus du stade.
Claude Désusclade, troisième au championnat de France de natation en 1936.
Nous étions sur place, on participait.
Vous étiez très élégant.
Ah, très, oui.
Ah, bon, avec un pantalon
beige et une veste bleue.
Et un béret basque.
Et un béret basque. Basque.
Est-ce que vous avez vu l'arrivée de Hitler, Goebbels, Göring, Hess?
Oui.
Et puis les rois de Bulgarie.
Oui, on ne savait pas très bien ce qui se passait. Ça, c'est tout même assez loin. Ce qu'on a vu arriver, évidemment, c'est le porteur de la flamme qui a monté en courant cet escalier qui était gigantesque. Il lui fallait un bon soutien, un bon coureur. C'était.
Hitler annonce l'ouverture des Jeux, la flamme qui arrive, le serment olympique, est prononcé sur un drapeau à croix gammée. Comment on a vécu ça en général?
Pas très bien. Enfin, ça passait presque un peu inaperçu, vous voyez, au milieu de tout ça. On était loin. C'était pas tellement gênant. Là, le régime, si vous voulez, le politique à ce moment-là, était représenté par un tas de gens en uniforme. Tout le monde était en uniforme en Allemagne. C'est après, quand nous avons vu, évidemment, le ciel rempli de planeurs. Mais il y en avait vraiment des quantités. Et alors, les jeunesses hitlériennes qui défilaient, c'était des jeunes gens de 14-15 ans, avec une bêche sur l'épaule et qui les faisaient parfaitement. On a très vite entré dans la partie purement sportive, qui a été remarquable.
La première caractéristique essentielle de l'olympisme ancien, aussi bien que de l'olympisme moderne, c'est d'être une religion. En ciselant son corps par l'exercice, comme le fait un sculpteur d'une statue, l'athlète antique honorait les dieux. En faisant de même, l'athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau. L'idée religieuse sportive, la religio athlete, a pénétré très lentement l'esprit des concurrents, et beaucoup parmi eux ne la pratiquent encore que de façon inconsciente, mais ils s'y rallieront peu à peu.
L'idée olympique est tellement forte dans tous les pays qu'elle surnage au-dessus de la politique.
Raoul Gattegno, ancien responsable de la FSGT.
Le sport était à l'époque vraiment un peu en dehors de la société. Il était sur une sphère, là où on avait placé Coubertin, au-dessus des partis, au-dessus des nations, au-dessus de tout.
L'humain s'exprime dans le jeune adulte, celui qu'on peut comparer à une superbe machine dont tous les rouages sont achevés de monter et qui est prête à entrer en plein rendement.
Vous avez une explication pourquoi, en 1931, le CIO a choisi Berlin?
La question est difficile à répondre. À l'époque, Hitler n'était pas encore arrivé au pouvoir tellement, et Berlin, c'était une capitale comme d'autres pays européens, et les Jeux Olympiques avaient lieu alternativement dans un continent et dans un autre. Alors Berlin était candidat, il n'y avait pas de raison, à l'époque, de raison majeure de l'éliminer. Mais il faut aussi tenir compte de l'aspect suivant. Vous savez, le comité international olympique créé par Coubertin était à l'origine constitué d'une certaine noblesse, pas tellement orienté à gauche. Donc, même s'il y avait eu un gouvernement de droite à Berlin, il n'y avait pas d'obstacle pour eux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, il s'est constitué un comité de vigilance contre les Jeux olympiques à Berlin. Et dans ce comité, il y avait un ancien champion olympique qui était Géo André. Il y avait, à l'époque, il y avait deux journaux sportifs à côté de l'auto. Il y avait l'Écho des Sports. Et Victor Brière, qui était directeur de ce journal, faisait partie de ce comité. Et également le président du Racing Club de France, qui, je crois, était à l'époque juif et qui, par conséquent, était concerné par ces Jeux olympiques. Alors, sans compter de nombreux intellectuels.
J'étais licencié à la Société athlétique de Montrouge, en 1931. À 13 ans, je suis rentré comme apprenti compositeur typographe à la Première Nationale. Je faisais quand même du sport à la SA Montrouge. Et c'est là que j'ai commencé à faire des performances intéressantes.
André Coudreau, spécialiste du 800 et 1500 mètres.
En dehors vraiment d'appartenance à vraiment un parti politique, l'attitude d'Hitler qui a déjà depuis 1933 et tout ça, n'était pas acceptable pour la majorité des gens. Tout de suite, on disait « n'allez pas à Berlin ». Et pour ça, nous avions fait un comité, justement, pour organiser ces Olympiades populaires de Barcelone. J'ai encore mon carnet de repas.
J'ai plus entendu parler des Jeux de Berlin que des Jeux de Barcelone. On nous a simplement annoncé qu'on partait à Barcelone, c'est tout.
Beza Bernemann, jeune basketteuse au IASC.
On n'avait pas la radio à l'époque, on n'avait même pas la radio, et mon père allait chez une giletière dans la rue Rochechouart un peu plus haut. Il allait écouter la radio, les discours d'Hitler, enfin. Ils revenaient d'ailleurs atterrés tous les deux. Enfin, les parents ne s'intéressaient pas du tout au sport, hein. Ils s'intéressaient plus à la politique qu'au sport. Mais au IASC, on n'a jamais fait de politique. Les adultes peut-être, mais pas les enfants. On pensait plus à Hitler qu'aux Jeux de Berlin. Et quand on allait camper, on brûlait une croix gammée. Voilà, c'était la réaction.
Mes enfants, vous savez, je crois que nous avons tapé dans le mille. Il y a là un restaurant, ça doit être le bon coin. On va déjeuner là.
Il y a de l'ombre, on sera au frais. Il y a des balançoires, on va s'amuser.
Qu'est-ce que nous allons prendre comme poisson?
Je crois, mes enfants, que nous allons vous offrir un de ces petits baltasars. On tirer des nouvelles.
Restaurant Moulin, maintenant de friture. Cabinet de société, balançoire, repas 2,50 €. Le prix est raisonnable.
Renoir, partie de campagne. Le film a été tourné en 1936.
Merci.
Pousse-moi fort, Adrien.
Vite, patron, vous mettrez de l'huile de vin blanc, hein. Et puis du bordeaux rouge.
Dis, papa, on déjeunera sur l'herbe.
Oh, on n'est pas à la campagne pour s'enfermer.
Le droit au sport était une revendication du mouvement de la jeunesse et du mouvement sortif ouvrier. Les activités de plein air, le camping, développaient, disait-on, le caractère de la jeunesse. Il faudra attendre les lois de juin 36 sur les congés payés et la semaine de 40 heures pour que la pratique du sport de masse devienne une réalité.
Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux, chantons l'essor de la jeunesse qui se moquant de la gloire vole vers la victoire. Chantons tous en cœur les performances et les vainqueurs, allons sans peur, joyeux et forts, ivres des torts, chantons vive le sport.
Raoul Gattegno.
La FGT s'est constitué en 1934 par la fusion de deux fédérations sportives dont l'une était nettement à tendance communiste et l'autre à tendance socialiste, je dirais même très intimement mêlée à la politique même. Mais c'était l'époque aussi où les organisations syndicales également, la CGT s'est créée, et c'est aussi où l'époque de la montée du Front Populaire, c'est-à-dire que pour la première fois depuis de longues années, les partis de gauche commençaient à se rassembler pour lutter contre la menace des croix de feu et d'autres organisations d'extrême droite qui se manifestaient.
Je suis arrivé à Paris, c'était en février 34. Quand c'était la droite qui essayait de prendre le pouvoir, les barricades, les bagarres.
Ilex Belair, jeune ouvrier sportif.
Il y avait des groupes de Camelot de Roi et des groupes de fascistes, quoi, qui venaient carrément organiser pour battre les juifs, quoi. Nous sommes venus en France, pays démocratique, mais on le savait, puisque nous étions au courant des événements politiques, que les fascistes en France étaient très actif, il propageait le racisme contre les étrangers et surtout le groupe de Maurras qui était spécialisé dans les insultes contre les juifs. Bien sûr, comme jeune immigré, on ne connaissait pas la langue et pour avoir du travail, c'était presque impossible puisqu'il a fallu des papiers d'autorisation. Alors, et beaucoup d'immigrés, dans mon cas, on s'est groupés dans des clubs des jeunes ouvriers juifs qui s'appellent IK en yiddish, Arbeiterjugendclub, en français, le club des ouvriers juifs. Celui-là qui j'appartenais, c'était Ripia. C'est le football. Il y avait plusieurs équipes de football, volleyball. Et on s'inscrit, on participait à la Fédération Gymnique de Travail, FGT. Tous les dimanches, il y avait un match quelque part dans la mairie où il y avait des mairies de gauche, des mairies socialistes ou communistes. Alors on était invités et on faisait un match avec des supporters qui sont venus avec nous. Et sur place, c'était une petite fête, un match de football dimanche. Les X, c'était... On faisait aussi du sport et des campings, mais le travail principal consistait à éduquer les jeunes et leur expliquer leur situation, de savoir la situation politique dans le monde, surtout en Europe. Alors les LIC ne pouvaient pas se permettre d'envoyer une délégation à Barcelone.
À l'époque, c'est pas comme maintenant, hein. J'étais resté jusqu'à plus de 20 ans dans un patronage pour faire la gymnastique. Et je faisais la gymnastique et l'athlétisme. Et à ce moment-là, on pratiquait un peu partout, quoi. Mais j'étais pas grand champion, hein.
Noël Berthet, licencié en 1936, à la fois à la Fédération Française d'Athlétisme et à la FSGT.
Pour l'entraînement, nous, personnellement, on avait fait un petit terrain derrière le dépôt des autobus, et on s'entraînait là, un petit terrain qui faisait à peu près 100 mètres, on terminait à 5 heures le soir. Alors on avait largement le temps, de 5 heures à 7 heures, de s'entraîner, quoi. Dès que Berlin a été désigné pour l'organisation des Jeux Olympiques, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été d'accord. Donc j'étais. Et à ce moment-là, on a discuté avec les copains bien avant 1936, hein, après 1934, vous voyez. Parce qu'on n'était pas d'accord avec les Jeux de Berlin, qui étaient surtout des Jeux politiques. Quoi.
Louis Bayot, président de l'Amicale des vétérans du Parti communiste.
C'est vrai que cette question des Jeux Olympiques à Berlin a soulevé beaucoup, beaucoup d'objections pour la simple et bonne raison, c'est que dans les périodes de la montée du fascisme en Allemagne, s'était développé en France un fort mouvement antifasciste auquel le Parti communiste avait pris parti, et avec notamment des intellectuels de grand renom. Et l'idée du boycott, qui, comme vous l'avez dit, était née aux États-Unis, s'est développé également en France, car c'était impensable de pouvoir donner un tel satisfecit à Berlin, à Hitler, pour pouvoir organiser les Jeux. Intrinsèquement, si je puis dire, le sport a des qualités considérables. Reste après de savoir à quoi sert ce sport et quelle politique il peut servir en quelque sorte.
Malgré l'intervention de Jean Longuet, député socialiste, le Parlement vote le 17 décembre 1935 une subvention de 900 000 francs pour la préparation de l'équipe de France aux Jeux de Berlin. Socialistes et communistes ont voté contre cette subvention.
C'est évident. Ce qu'il y a, c'est qu'en 1935, il n'y avait pas encore eu la victoire du Front populaire, et donc il y avait une minorité de communistes et de socialistes de gauche qui se sont par conséquent opposés à la préparation des Jeux, c'est-à-dire pour le boycott des Jeux à Berlin. C'était la période où le Front populaire était en train de se développer, et les élections devaient intervenir quelque temps après, quoi. Et par conséquent, il y a eu un changement de majorité avec une majorité de gauche, de communistes, de socialistes et de radicaux.
En juin 1936, ce gouvernement du Front populaire a décidé d'accorder 1 million de francs pour les Jeux de Berlin et 600 000 francs pour les Jeux populaires de Barcelone. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, un débat houleux.
Oui, c'est tout à fait compréhensible, puisque la gauche étant majoritaire et se trouvant au gouvernement dans le gouvernement Blum, il s'est trouvé que les socialistes et radicaux ont changé d'attitude par rapport à celle qu'ils avaient exprimée au mois de décembre, notamment par la bouche de Longuet. C'est-à-dire qu'ils étaient contre à ce moment-là, et à partir du moment où on est au gouvernement, le gouvernement accepte en quelque sorte le déroulement des Jeux Olympiques, la participation de la France plutôt au déroulement des Jeux Olympiques à Berlin. Obligatoirement, ça a fait l'objet d'un débat à l'Assemblée, à la Chambre des députés d'alors. Nous avons condamné la subvention. Il y a une intervention qui a été faite par Florimond Bond, qui était le porte-parole du groupe communiste, qui s'est prononcé d'une manière radicale contre la présence de la délégation française aux Jeux de Berlin. Il s'agissait de savoir si, sous le prétexte de confrontation sportive, y compris avec des jeunes Allemands, si sous prétexte de compétition sportive, on allait favoriser en quelque sorte Hitler. C'était le début, si vous le voulez, des concessions qu'on allait lui faire.
Florimond Bond avait en face de lui François Sampietri, qui était le président de la Fédération française d'escrime, qui a été un chaleureux défenseur des JO.
C'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est que Pietri s'est avéré par la suite être un pétainiste de première facture. Il se drapait dans une espèce de dignité sportive pour en réalité faire avancer une conception politique. Et ce qu'il fallait, c'était à tout prix faire que les Jeux aient lieu à Berlin.
Alors finalement, le Parlement a ratifié les subventions décidées par le gouvernement de Front populaire. Seul Mendès France a voté contre. Les socialistes et les communistes se sont abstenus. Comment on peut imaginer que le Parti communiste soit abstenu ?
Le gouvernement avait été formé il y avait peu de temps. Vous savez, on n'était pas au gouvernement. Mais on soutenait ce gouvernement, on était dans la majorité de Front populaire. Et par conséquent, c'était la première grande épreuve. Qu'est-ce qu'on allait faire à ce propos-là? On se trouvait là, parce que là, les Jeux Olympiques allaient ouvrir. Hein. Juillet, c'était le début. C'est-à-dire qu'on se trouvait à la veille du départ de la délégation. Il est évident qu'il y avait un sentiment dans la population que ces Jeux devaient être préparés, que la France devait y être, et refuser la subvention, c'était dire la France n'ira pas. Ce qui pouvait amener la droite à organiser une grande souscription publique pour suppléer la carence du gouvernement. Comment ça aurait été pris dans l'opinion publique? C'est très compliqué.
Allô, allô, ici Printemps. Mes chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre grand et très sympathique comique, j'ai dit Champy.
Ah, 1936, grève au printemps.
Ça va, non, un peu, ça marche, puis après, dis donc, dites, c'est la troisième fois qu'on recommence, alors. Dites, écoutez, on va chanter la grève du printemps, ça boum. Alors, écoutez, ceux qui chantent faux, mettez-les en veilleuse. Alors, on commence par le refrain, comme d'habitude. Alors, un, deux, trois, les...
Pour les sportifs de la FFT, il y avait une conscience politique.
Raoul Gattegno.
Bon, à l'arrivée du gouvernement Léon Blum, même dans la population, il y avait un courant politique très marqué pour les forces de gauche. Et les sportifs qui étaient de la FGT, en tout cas, étaient aussi marqués par ces idées de gauche. Je peux dire que c'est sur l'initiative de la FGT. Moi, pas personnellement, j'étais pas encore un dirigeant assez important, mais le secrétaire général de la FGT, Auguste Delaune, avait pris contact avec les sportifs espagnols. Et je dois dire, je pense qu'il a été un des inspirateurs de ces Jeux populaires. Parce que la FGT, en tant que telle, avait déjà organisé des rassemblements populaires. Et il a beaucoup aidé le comité d'organisation espagnol pour l'organisation.
Carlos Solin, jeune sportif catalan.
Dans cette période, le sport se faisait surtout en Catalogne. Sont les ouvriers et employés et classe moyenne basse de Catalogne qui ont commencé le sport beaucoup plus avant que les autres. C'était le sport pour le sport avec l'idée de la santé et la culture. Et la sélection de l'équipe nationale de toutes les spécialités se faisait aussi ici.
L'idée des Olympiades populaires n'est-elle pas née après la victoire du Front populaire? Et on sait très bien que la gauche française et la gauche espagnole oui. avaient des liens amicaux.
Oui, mais l'idée de l'Olympiade populaire à Barcelone, elle a fait son chemin, petit à petit, mais elle a été depuis longtemps dans l'idée générale des syndicats, des groupements ouvriers et de gauche. Contre entièrement des politiques de centre et de droite conservateur espagnol qui étaient entièrement contre les Olympiades catalanes, pour deux raisons. L'une contre le sport populaire et l'autre contre l'appui de la Catalogne qui avait exigé et qui avait plus tard obtenu que les nationalités dans l'Espagne, comme la Catalogne, les Pays Basques, la Galice, seraient représentées elles-mêmes sans être intégrées dans un groupe national.
Alors, Carlos Solin, savez-vous comment le comité olympique espagnol, qui devait bien défendre les JO de Berlin, comme tous les comités olympiques, comment ils ont réagi à l'annonce de ces Olympiades populaires?
Ils n'étaient pas très contents, mais en ce moment, comme vous savez, le Front populaire avait gagné les élections en Espagne. Et le gouvernement devait servir d'un côté à ceux qui ont gagné les élections et de l'autre ne pas laisser mécontents les gens, la banque, les gens de l'argent, les grands pouvoirs. Et ce qu'ils ont fait, c'est envoyer des gens à Berlin et aussi à essayer d'envoyer des gens à Barcelone. Mais la droite était totalement en contre. Ils ont envoyé une équipe à Berlin de 22 personnes avec un budget aussi de 400 000 pesetas.
Pardon, il y a quelqu'un. Attendez, j'ai le chien parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Alors, vous attendez ma chienne qui fait du bruit, je suis allé. T'as fini. Rentre.
Albert Ferras, champion de France de tennis de table.
Je crois que c'est des histoires politiques, vous comprenez. Bon, moi j'étais à l'UFOLEP, bon, parce que j'étais à l'école laïque. Et puis bon, à l'UFOLEP, c'était socialiste. Bon, ils ont voulu faire quelque chose contre Hitler, qui était plutôt autre chose, vous comprenez. Alors, tout ça, mais nous, vous savez, tout ça, on ne s'embarrassait pas de tout ça. Hein.
Non, vous n'aviez. Vous n'étiez pas politisé.
Non, pas du tout.
Mais vous étiez très jeune en 1936, vous aviez 19 ans.
J'avais 19 ans.
Que signifiaient pour vous les Jeux de Barcelone?
Mais pour nous, c'était formidable, vous vous rendez compte. Bon, d'abord, j'adorais le tennis de table, on l'appelait le ping-pong à ce moment-là. Et puis, bon, je joue au rugby également. Et pour moi, les Jeux Olympiques, c'était quand même quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Nous étions. Vous savez, je ne sors pas la cuisse de Jupiter. Mon père était employé de gare et ma mère faisait des ménages. Alors, par conséquent. nous savions apprécier parce que ça valait le coup. Eh bien, hein, ça finit.
Dans le sentiment de montrer que des Jeux Olympiques pouvaient s'organiser sans être marqués politiquement, enfin ils étaient marqués politiquement en Espagne, mais sans être marqués par l'élitisme.
Raoul Gattelio, il faut dire que vous étiez un basketteur.
Oui, non, mais pas de haut niveau. Oui, un basketteur, enfin j'étais champion de Paris à la FGT, mais à la FGT, c'était pas le même niveau que la Fédération Nationale.
Moi, c'est simple, là-bas, je courais en vélo. Mais j'ai couru pendant pas mal de temps. Mais vous savez, c'était les courses de l'FST, c'était pas le Tour de France. Hein. Faut pas... On était une bande de copains, on n'en faisait pas un plat. Et il est arrivé de gagner des quelques courses. Mais ça n'allait pas loin.
Raymond Juré, champion de France de cyclocross.
Vous savez, à l'époque, la FST, c'était comme un repas de communistes. On entendait avec les gens, c'était des gens d'une pureté. Moi, j'ai appris à être honnête, j'ai appris à être droit, à avoir une morale. C'est grâce à des gens comme ça. Parce que j'étais un espèce de voyou, comme tout dans mon coin. Moi, j'étais. Je ne savais pas tellement quel était le bien, quel était le mal, quelle était la ligne droite, quelle était tordue. Et puis, ma vie s'est orientée, complètement orientée. Et je suis devenu aussi militant. Pas un super, mais. Au contact de gens qui étaient honnêtes, je suis devenu un type net et propre. On nous donnait des indications dans ce sens-là, mon petit gars, prends le départ de ta course, planque-toi et attends les derniers kilomètres pour sauter dans le peloton. Et puis dans la côte de Crône, tu vas gagner, tu vas tous les écraser. Voilà ce que j'ai appris, moi.
Et puis il y a le printemps qui se promène dans les champs.
Alors, en 1936, pourquoi vous êtes parti à Barcelone avec les gens de la FSGT?
Je crois que c'est l'ambiance, c'est la gentillesse, l'ambiance, et puis t'es tous des gens, t'es comme moi, t'es pas très riche.
À l'époque, le professionnalisme n'était pas aussi fort que maintenant. Il est certain que les sportifs étaient défrayés. Mais il y avait peu de sportifs en dehors de ceux qui étaient professionnels dans le monde d'éducation physique ou d'entraîneurs. Mais il y avait peu de sportifs qui étaient payés de façon régulière, mais ça n'empêchait pas d'avoir des primes. Un sportif de haut niveau, déjà à l'époque, il fallait qu'il consacre beaucoup de temps à son entraînement. Donc il était assez logique qu'il soit aidé matériellement à... Et souvent, c'était par leur entreprise, par des sponsors. Mais enfin, ils étaient défrayés, mais ils ne gagnaient pas leur vie avec le sport.
Raoul Gattegno, les sportifs ont quelquefois dû payer leur voyage. Les subventions du gouvernement n'étant pas suffisantes.
Ceux qui étaient sélectionnés par la FGT, donc, ne payaient pas leur voyage. Mais il y a des individuels qui sont allés directement et qui ont payé leur voyage, ça c'est sûr.
Noël Berthet.
Sur le plan FGT, on n'avait pratiquement pas d'organisation collective. Et les gens qui voulaient aller aux Olympiades de Barcelone le faisaient à titre individuel, non pas en tant que représentant d'une fédération, ni FFA, ni FGT.
Il fallait de l'argent pour aller à Barcelone. Il y avait le voyage à payer. Parce que là-bas.
Ah oui, mais ça, c'était pas un gros problème parce que les syndicats étaient d'accord. Et à la sortie des usines, dès qu'on a décidé de pouvoir partir là-bas, on faisait des collectes à la sortie des usines. On mettait un drapeau et puis on disait pour le déplacement pour aller à Barcelone. Et on ramassait un peu d'argent comme ça.
En juin 36. Vous vous entraîniez pour les Olympiades populaires de Barcelone, mais vous étiez également occupé par la grève au tramway de Bordeaux.
C'est d'ailleurs ce qui m'a empêché de m'occuper pour partir personnellement, quoi.
Alors là, il a fallu faire un choix entre les responsabilités syndicales et Barcelone.
Oui. Oh, mais le choix pour moi a été facile parce qu'il fallait d'abord que je reste à la bonne ville. C'était plus important pour la suite, quoi, pour moi et mes camarades, quoi. J'étais délégué de 3000 personnes à l'entreprise. Il n'était pas question pour moi de partir pour X temps et puis laisser tout en plan.
On va refaire leur coin, c'est le plus beau. Allez, les cours de rêve du printemps, écoutons le chant de son nom.
Rose Mention, vous êtes l'épouse de Robert Mention, qui était en 1936 un des dirigeants de la Fédération sportive et gymnique du travail. Pendant les grèves de 1936, il est allé dans les usines pour à la fois rencontrer des sportifs pour les sélections et puis aussi pour créer des clubs de sportifs.
Absolument.
Ouvriers.
C'était son but, c'était cela, créer le plus possible de sections sportives. Et surtout, à l'intérieur des entreprises. Parce que c'était vraiment là qu'il y avait les ouvriers, les manuels. Et c'est là qu'il voulait développer l'organisation.
Il était tout à fait dans la ligne de Léo Lagrange, alors.
Oui. Un peu peut-être plus à gauche, quand même. Mais il admirait Léo Lagrange.
Je suis pour ma part convaincu que dans les heures graves que la paix traverse en ce moment, le travail que nous faisons est non seulement nécessaire, mais encore indispensable.
Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État au sport et aux loisirs, était présent avec Pierre Cotte, ministre de l'Air, à la fête de Garches le 5 juillet 1936. Étaient présents également André Malraux, Georges Marane, Arcandis, un député catalan, et un représentant du gouvernement espagnol qui a survolé la fête à bord d'un avion décoré de l'insigne des Jeux.
Ah oui, je me souviens de Garches. Il y avait Léo Lagrange qui est passé, il y avait... il y avait des huiles.
Vous avez donc assisté à cette
oui,
manifestation.
C'est-à-dire que moi, vous savez, là où j'allais, on me collait toujours quelques responsabilités, soit une caisse, soit... Alors, je ne profitais pas beaucoup de ce qui se passait. Je travaillais.
André Coudreau.
Ce n'était pas une compétition vraiment sportive. Et c'était une fête d'été... C'était quand même une propagande, une réclame en vue des Jeux de Barcelone.
Les Olympiades populaires de Barcelone devaient se dérouler du 19 au 26 juillet. 6000 jeunes sportifs envoyés par 17 pays étaient sélectionnés. Le 17 juillet, 1200 sportifs se préparent à partir pour Barcelone. Certains partent de Lyon, d'autres de Toulouse, de Bordeaux. Ceux de la région parisienne partent par la gare d'Austerlitz.
C'était un train, une véritable liesse. Hein, moi, par exemple, je n'étais pas une athlète, hein, j'étais une touriste. Enfin, j'y allais aussi pour aider le plus possible.
Mais vous étiez avec les sportifs?
Ah oui, 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 on était... Ça chantait, ça hurlait. Oui, oui.
Et qu'est-ce qu'on chantait?
Oh, bah, on chantait surtout toutes les chansons de gauche. C'était vraiment... C'était l'International, c'était la Jeune Garde, c'était des cris contre Hitler. Il y avait vraiment un enthousiasme, un entrain.
C'était la joie.
Ah, c'était la joie, la grande joie.
Et
je me souviens qu'on chantait l'international, c'était au petit jour lorsqu'on arrivait au-dessus de l'Aude, en Aude, à Carcassonne, parce que je me rappellerai toute ma vie. Et le train avait ralenti, il était sur le pont qui traverse l'Aude, et il y avait un pêcheur. Et ce pêcheur, quand il a entendu l'international, il s'est déculotté, puis il nous a montré ses fesses, et le reste avec. Voilà quelque chose qui m'a frappé terriblement.
Dans le train, d'ailleurs, c'était des trains très rudimentaires, d'ailleurs, qu'on avait eus. Mais déjà, en arrivant à la frontière espagnole, les gens venaient nous voir, ils nous amenaient des fruits, ils nous amenaient tout ça. Déjà, avant d'arriver à Barcelone, déjà, parce que ça allait pas vite à ce moment-là.
La fenêtre dans la vie des paysans qui travaillent dans la campagne, tout ça.
Emmanuel Minck, membre de l'équipe de foot du IASC belge. 28 jeunes sportifs juifs, la plupart du IASC, sont partis à Barcelone avec 60 jeunes belges de la Fédération sportive socialiste conduite par Jean Nobels.
Et c'était le voyage très gai, vous savez, chanter, on était contents. On va prendre part dans une chose comme ça, contre Hitler, contre le fascisme.
Qui est-ce qui a payé le voyage?
L'organisation. Moi, je n'ai pas eu un sou. Même, j'étais illégal. Il y avait un des sympathisants de cette équipe qui s'occupait tous les voyages, qui m'accompagnait. Il était responsable de moi jusqu'à... parce que je n'ai pas eu de passeport. On a passé la frontière quand je me trouvais déjà en Espagne. J'étais libre comme tout le monde. Oui, oui.
Nous, on était tous très contents de partir sans les parents.
Beïsa Bernemann.
À 16 ans, on a l'impression que c'est une liberté. Et quand on est arrivé à la gare de Barcelone, il y avait un brouhaha dans les gares. Il y a beaucoup de bruit, mais là, il y avait, je sais pas, c'était bizarre. On ne nous a rien dit, on nous a mis dans des cars et on nous a emmenés directement au stade de Montjuïc. On y a vécu 8 jours à peu près. On a tous dormi dans le stade. On a dormi dans les vestiaires. On ne nous laissait pas sortir. Il était prévu qu'on ferait les jeux. On avait été sélectionnés pour. Et une fois que les jeux seraient terminés, on finirait nos vacances à Tarragone.
Quand nous sommes sortis de la gare de Barcelone, toutes les maisons dont les toits étaient visibles...
Rose Mention.
...avaient des mitrailleuses. Sur les toits, des petites mitrailleuses... Et on se demandait bien pourquoi.
Là, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui ne grattait pas, parce que les chambres n'étaient pas installées, il a fallu qu'on monte nos lits nous-mêmes, etc., etc. L'hôtel, c'était le lycée qui était sur la place d'Espagne. J'ai des photos. Devant cette place d'Espagne, il y a une grande avenue qui monte au stade de Barcelone. Et on a pu y monter, y aller un petit peu, regarder un petit peu comment il était. D'ailleurs, il était très très bien, ce stade.
Alors, vous avez commencé à vous entraîner un peu en arrivant?
Un petit peu, oui, mais on se dérouille, on se décrasse les jambes, c'est tout ce qu'on fait. Mais en principe, on devait commencer le lendemain, on n'a pas pu.
Alors, mon mari était parti 8 ou 15 jours plus tôt, je ne peux pas vous dire. Lui était parti en tant que responsable, il était parti bien avant pour que tout soit au point quand les sportifs arriveraient. Donc... je l'ai rejoint pour qu'il essaye de m'expliquer un peu ce qui se passait, qu'il ne savait pas lui-même encore. Voilà. Et puis ensuite, bon, il a fallu organiser justement la répartition des féminines d'un côté, des pupilles, des grands athlètes, et puis même des dirigeants. Alors Delaune et puis d'autres dirigeants sont partis dans un hôtel dans le centre de Barcelone. Mon mari et moi, nous étions logés chez des particuliers. Et c'est dans la nuit qu'on a été réveillés par le tir des mitrailleuses.
¡Atención! El primero que se le vea asomar por las ventanas, ¡fuego sobre él!
La rébellion franquiste a commencé au Maroc le 17 juillet 1936. Elle est passée à l'attaque à Barcelone le 19 à 5 heures du matin. Les places principales, les édifices publics ont été investis. Le général Goled, qui avait mené la rébellion à Majorque, est arrivé par avion à Barcelone en fin de matinée. Il ne réussit pas à soulever la garde civile contre la République et accepte finalement de se rendre au président de la Généralité, Luis Companys. Les ouvrières narco-syndicalistes et les fédéralistes catalans ont repris la ville avec l'appui des gardes civils.
Mais en tous les cas, à ce moment-là, c'était vraiment inattendu. Alors, se trouvant chez ce particulier, il fallait qu'on parte. Et le propriétaire ne voulait pas nous laisser partir. C'est pas possible, ça tire de tous les côtés. Je suis responsable de vous deux, je peux pas vous laisser partir. Alors il a essayé, mon mari a commencé par essayer de reprendre le contact avec Delaune et les autres responsables qui étaient en ville. Et le peu qu'il a pu en apprendre, c'est qu'on les laissait pas sortir de l'hôtel. Alors mon mari a dit, nous on sort, coûte que coûte, on sort, on peut pas rester là, j'ai la responsabilité de quand même près d'un millier de jeunes, il faut que je parte. Alors il a fini par nous laisser partir en nous donnant à chacun un chiffon blanc, et ça a pétaradé évidemment, et on arrive à la place d'Espagne. Alors à la place d'Espagne, il y avait des gens dehors, c'était un échange de balles, sans savoir juste où étaient les tireurs. Mais nous étions d'un côté de la place et il fallait qu'on rejoigne l'autre côté. Alors, on s'est regardé et puis on a dit, il n'y a pas à dire, il faut qu'on rampe, parce que si on reste debout, on risque de recevoir. Alors, ma foi, on s'est allongé par terre et puis on a rampé, avec toujours une main prise par le chiffon blanc. Et on est arrivé comme ça, enfin, jusque cet hôtel olympique. Et on a retrouvé tous les sportifs, tous ceux qui étaient présents. Enfin.
Mais on savait que ça tournait mal. On avait cassé la côte, très mal.
Vraiment, juré.
Les responsables me disaient, vous allez vous mettre ça, vous allez bien écouter les ordres, parce qu'on n'est pas sûr de rien. On était si pas sûr de rien que nous sommes les premiers qui sommes canardés à l'hôtel olympique. Alors, j'ai encore des photos là, tiens, je suis... Nous avons été canardés à 5 heures du matin. Déjà, on était au troisième étage et on entend les bruits, on entend les coups de feu. Et on croit que ils sont venus nous saluer. Et c'est des soldats qui sont couchés en face de nous, en face des mitrailleuses, et ils tirent. Mais ils tirent dans la façade. Ils tirent et on croit que pour le début, qu'ils viennent nous saluer. On les salue tant qu'on peut. Et c'est qu'il a fallu qu'une balle fasse le tour de ma chambre. Enfin, fif! Et puis qu'un parti d'un bout de maçonnerie qui fout le camp, que c'était pas rigolable.
Il fallait tenir tranquille tous ces jeunes. Alors c'était le plus dur. Et alors pour les tenir, ce qu'il fallait, c'était sortir, c'était aller au stade. Il y avait des gosses, mais il y avait aussi des hommes, des haltérophiles, des rugbyman, des footballeurs. Et il fallait les tenir, il fallait les alimenter surtout. Parce que je suppose que les Espagnols eux-mêmes devaient avoir énormément de mal pour se ravitailler. Et les premiers jours, on avait surtout droit à une pomme de terre et une sardine. Et des fois, la pomme de terre était grosse, on la coupait en deux. Alors ça a été un problème. D'abord, il a fallu établir la discipline. Ça, mon mari était assez énergique pour ça. Et il a surtout interdit d'aller aux fenêtres. Il y en a un qui a reçu une balle dans son survêtement, entre ses cuisses. Il en fallait de peu qu'il soit vraiment blessé.
On n'avait pas le droit de se mettre à la fenêtre, mais il y a... Il y a un des athlètes, je ne sais pas de quel pays il était, il s'est mis à la fenêtre, mais il a reçu un bon petit coup de... Il a eu dans le genou, il n'a pas été tué, mais il a reçu une bonne balle quand même. Et justement, quand les premiers jours, on sortait par petits groupes pour monter au stade. Et puis d'entendre, tout le monde a plein ventre. Allez, ça s'est arrêté, hop, on fallait encore 100 mètres pour arriver à chaque fois à aller au stade. J'avais 23 ans, on n'a pas peur à ce moment-là. Personne n'avait peur.
Vous, les jeunes Espagnols, vous sentiez déjà la tension monter dans le pays depuis quelque temps?
Savez-vous, il y avait l'explosion de la situation. Elle était attendue déjà depuis quelques jours en avance. Même dans les possibilités d'armement, les syndicats et les groupes de jeunes actifs étaient déjà préparés pour essayer de défendre le Rio de Barcelone contre l'armée quand ils sortiraient à l'attaque. Et ce qu'ils ont fait, avec succès.
Alors les sportifs ont été bloqués dans les hôtels ou au stade. Oui. Est-ce que vous, les jeunes Espagnols, vous aviez des contacts avec eux?
Oui, il y a une double relation, mais très courte et très réduite. Les jeunes espagnols essayaient de faciliter les stages des athlètes français, même en gardant armé les accès à la porte de l'hôtel. Et il y a eu de la part des sportifs qui sont venus, qui sont passés à aider... surtout d'une forme hospitalière avec les blessés, avec un peu tout, et quelqu'un, aussi très peu, ils ont participé pendant quelques jours, je ne sais pas combien, à l'action du peuple contre l'armée de Barcelone.
C'est-à-dire au combat de rue.
Au combat de rue, oui.
Et alors, mon mari, il avait toujours le contact avec des responsables espagnols, mais sans savoir parler l'espagnol, et puis les Espagnols parlant pas toujours vraiment le français. Alors le rôle de mon mari, c'était surtout de rassurer tout le monde.
Et les empêcher de sortir?
Et les empêcher de sortir.
Mais vous, à Paris, est-ce que vous aviez un contact avec ceux de Barcelone? Avec Delaune, qui était à Barcelone, avec Mention, Raoul Gatelio.
Eh bien, nous avions un contrat par l'intermédiaire du gouvernement français. Nous n'avions pas de contact directement. Nous ne pouvions pas avoir de contact parce que la situation était trop confuse et trop difficile.
Comment a été prise la décision d'annulation des Jeux?
On a été prise, comment dirais-je, sous le feu des canons. Parce qu'en fait, c'est le jour de... où était prévue l'inauguration des Jeux, que Franco a déclenché la bagarre. Hein.
Et au bout de 3-4 jours, le gouvernement français a décidé de nous rapatrier en bateau de Barcelone à Marseille.
Comme on sait quand même qu'il y a des indisciplinés, et on craignait qu'il y ait des... participants qui seraient sortis, qui auraient pu être blessés, qui seraient à l'hôpital. Alors on a fait le tour de Barcelone, rapidement d'ailleurs, d'un hôpital à l'autre. Et c'est là qu'on a vu, on n'a pas trop regardé les bâtiments, mais enfin il y en avait détruits. Hein. Mais c'est là qu'on a vu tous ces chevaux par terre qui n'avaient pas encore été ramassés. Quoi. C'était triste. Ça s'est fait assez vite comme tournée, et comme il n'y avait pas de blessés dans les hôpitaux, on a dit si les bateaux ne sont pas encore partis, il faut les rejoindre, il faut rentrer. Il y en a qui voulaient absolument rester pour aller rejoindre les combattants et se battre, et surtout les adhérents du IASC. Le IASC, c'était le club des émigrés juifs, des antifascistes, qui avaient déjà, pour certains, fait de la prison dans leur pays, ou qui avaient été obligés de fuir pour... Et ça, c'était eux, ils voulaient... D'ailleurs, ils y sont allés, hein. Il y en a qui y sont restés. Il y en a qui y sont restés.
Là-bas, dans l'hôtel, on était consignés.
Emmanuel Minka.
On ne pouvait pas sortir. Troisième jour, quand même, était organisée une manifestation, une marche au stade. Dans cet hôtel, il y avait des Anglais aussi. Et on est allé. C'était une grande manifestation avec les chansons. Le peuple espagnol était très content de voir comment on marche, comment on chante. Et très tard, venaient des garçons très mal habillés avec des pistolets et on nous a accompagnés au hôtel. On a pris ces deux garçons pour les laver, pour les changer l'habillement et tout ça. Oui. Pour nous, ça faisait quelque chose. Le jour prochain, j'ai sorti à la grande rue La Ramblas avec un Hongar et on a vu un grand slogan pour s'engager dans la milice. Et pour moi, il n'y avait pas de question. Tout de suite, avec cet Hongar, on m'a engagé. On a demandé pourquoi on s'engage. Moi, j'ai eu des choses, je pouvais dire que j'étais communiste, j'étais prison, Pologne, je connais ce qu'Hitler a fait, il n'y avait pas de problème. Et on a aussi, j'ai tourné avec ça à l'hôtel. Et je leur ai dit, communiqué, que je m'engageais dans la milice et je partirai ce soir là-bas où se trouve l'état-major et tous les milices. Mais mes camarades, mes responsables ont dit, non, écoute, tu ne peux pas aller, nous sommes responsables de toi. Je commençais à répondre, écoutez, moi je suis adulte. Enfin, les Belgiques, on m'a donné 25 dollars, les Anglais 5 francs sterling. C'était un moment très, très comment dire, important. Oui.
Alors, pendant que les sportifs reprenaient le bateau, vous preniez le chemin du front d'Aragon. Vous êtes parti à ce moment-là.
Comme volontaire.
Arrivé sur le quai était noir de monde. C'est tous les républicains espagnols qui étaient venus là, tassés les uns contre les autres pour nous saluer, pour assister à notre départ.
On couchait dans les... On avait laissé les cabines aux femmes, mais on couchait dans les couloirs, dans partout, ça. Et le commandant du bateau voulait nous faire payer, alors allez, il y a eu un ras-le-bol général.
Il y en avait déjà un de parti, le bateau, on était dans le deuxième. Ça a été assez drôle d'ailleurs, parce que comme il y avait tous ces gens qui étaient sur le quai, on était tous du même côté pour les saluer, les au revoir. Et le bateau, alors, il y a eu cette réaction, évidemment, tout le monde essayait d'aller de l'autre, et il a fallu quand même qu'il y ait des voix qui s'imposent et qui disent « partagez-vous ». Et puis voilà, ils sont partis. À grand regret.
À Marseille, les sportifs français qui venaient participer aux Jeux internationaux de Barcelone, ainsi que la colonie française résidant dans cette ville, sont rapatriés et débarquent.
Alors pour nous, ça s'est arrêté là. Puis après, ben, on a recommencé la lutte en revenant à Paris.
On était parti avec l'esprit sportif, on est parti avec l'esprit de revanche. On est parti, la plupart des gens qui étaient avec nous auraient voulu donner un coup de main aux Espagnols. Donc, quand on voit la suite, on peut le pleurer. Moi, je suis angoissé, j'en ai les larmes aux yeux. Je pense tout ce qui a été tué.
En 1936, les Olympiades populaires de Barcelone ou les Contre-Jeux de Berlin, avec Raoul Gattegno, Rose Mention, André Coudreau, Raymond Juré, Albert Ferras, Beiza Bernemann, Emmanuel Mink, Claude Desusclades, Carlos Solin, Louis Bayot, Noël Berthet et Ilex Belair. Restauration des 78 tours, Mireille Vasseur, Patrick Marais et Jean-Louis Bossonnade. Mixage, Sylvain d'Angoisse et Bernard Charon. Une émission de Jeannette Padierkowski et de Christine Robert.
Cette émission a été diffusée le 25 septembre 2000 sur France Culture.